Non, pas au sein.
Ok.
Salut!
Salut Francis!
Salut toi!
Ça va super!
Salut vous autres!
Salut! Ça fait
longtemps?
Ça fait longtemps,
ouais, ça fait longtemps
quand même. Un mois?
Un mois? Un petit peu plus qu'un mois?
Un petit peu plus.
Ben oui, parce que tu vois, l'épisode qu'on présente aujourd'hui, c'est FAP, qui a été tourné le 22 novembre, ça fait déjà longtemps. On a pris un petit break, nous autres, d'un mois pour recharger la batterie, puis encore prendre un peu le concept et la technique. Puis on va faire ça super vite, je pense bien. T'as-tu quelque chose à dire, quelque chose de plus à propos de l'épisode de FAP? C'est super le fun d'ailleurs, vous allez voir. Parce qu'on a un nouveau décor aussi, hein. On a un nouveau décor en plus, hein. Fait qu'on travaille un peu là-dessus.
Je veux juste commencer par dire merci pour le bel accueil des trois premiers épisodes de Chic Xenob. C'était super cool. Je me suis fait reconnaître dans l'autobus pour faire dire « Hey, tu fais pas podcast toi, hein? »
Oui.
Ah, c'est vraiment cool. C'est pas des blagues.
Fait qu'il y a un shout-out aux quatre personnes.
Ouais.
les prochains shows pour Xenob, c'est quand?
Le 25, on va avoir Jet Sound qui viennent jouer le samedi. Ça commence à 21h, puis c'est 10$ à l'entrée. Sinon, le 31, DJ Declé, notre résidence, c'est gratuit, puis ça commence à 23h. J'ai hâte de vous voir là-bas.
Puis on vous remercie encore le Putain Festif, qui a nous rendu compte aux artistes ce soir-là, généreusement. Si vous voulez aller voir sur 2339 Rue Royale, allez voir leur page Facebook, allez liker si vous voulez, allez faire une petite visite, réserver. Il y a encore de la place pour super tous les soirs, c'est dans le fun. Ils sont fermés le mardi puis le lundi soir. Sinon, le mardi du jour, puis tout le reste de la semaine. N'hésitez pas. Merci aux Xenob aussi, encore, l'accueil en haut, booker les shows et tout le reste, puis tout ce qui apporte à la culture locale.
171 rue Bonaventure, ouvert 7 jours semaine, de 4h à 3h du matin, all day every.
Puis, je vous laisse avec ça, mais n'hésitez pas à liker, suivre nos pages, si tu es à la Maison Vaudeville, chez Xenob Podcast, laissez un commentaire sur YouTube, n'importe où. Dans le fond, ça fait travailler les algorithmes, ça pense encore plus d'imager un petit peu plus dans la scène de YouTube, des Spotify, des trucs où beaucoup de gens qui naviguent. Sans plus attendre, on part ça.
Bon visionnage!
Fa! J'aime ça dire ça. Fa! Fa!
Je parlais avec ma boss avant l'interview, puis elle arrêtait pas de dire faon! Je capotais.
Ça arrive souvent.
Ça doit.
C'est pas la seule, ouais.
Qui qu'on soit, là, comme je vais vous laisser vous présenter et savoir qu'est-ce que vous faites dans le groupe, en commençant par notre ami qui est ici.
Salut, moi c'est Nick. Je suis le plus ou moins nouveau depuis janvier dernier. Je suis le plus ou moins nouveau drummer avec Fan. Je remplace Jack qui était là avant. Puis, c'est ça.
Moi c'est Alex. Je suis la bassiste de Fan et je fais les back vocals aussi.
Moi c'est Yves. Je suis à la guitare et au chant.
Qui écrit les chansons?
C'est moi.
Nice. Ouais. T'as une belle plume, j'aime ça.
Ouais, ben merci.
Vous avez 2017 le band, je pense, vous avez formé ça.
Ouais.
Je vais me lancer direct dedans parce que je pense, si je me trompe pas, depuis 2017, c'est quand votre premier show, mettons à Trois-Rivières, on parle de. Parce que je dis ça parce que je suis indirectement, je suis pas un dire fan non plus là. Mm-hmm. Mais je sais que ça fait, ça déboulait vite dans le fond.
Oui, quand même. Mais en fait, on a fait un show ou deux, puis après ça, on a dû arrêter un bout à cause de la COVID. Puis, mais après ça, oui, les choses ont déboulé assez vite. On a gagné un concours, un prix, un concours en fait qui nous a permis de faire un premier EP. Il y a deux chansons du premier EP qui ont passé à la radio, certaines radios commerciales même, des radios satellites. Ça nous a donné un coup de pouce ça aussi. Puis là, on est rendu à un deuxième EP.
C'est ça que c'est là que je m'en allais, en fait. C'est ça qui est le fun.
Yes! J'ai vu Lou qui fait un signe de même. C'est un peu louche ton affaire.
Lou en régie, dans le fond. Là, c'est juste qu'il nous parle pas loin des fois quand on a besoin d'ajuster l'image ou ça. Je parlais de ça parce que la COVID, des fois, je pose la question de Ruben. C'est bizarre comme question parce que des fois, les gens ont tendance à dire « Ben oui, c'est sûr que ça nous a nuit, mais il y a d'autres bands que ça l'a aidé, la COVID. » Tu sais, ça a permis de prendre le temps de pratiquer, prendre le temps de structurer le band, prendre le temps d'écrire des chansons, de se coordonner ensemble. Vous, mettons avec du recul, la COVID, ça a-tu aidé ou ça a nuit?
Moi, je pense que ça a nuit dans notre cas parce qu'on avait des projets en fait qui ont été sur la glace longtemps, qui auraient dû être réalisés avant. On a fini par les réaliser quand même. Mais nous, je pense que ça nous a retardé plus qu'autre chose.
OK, ouais. Fait que vous avez été formé juste avant, justement, pour créer des projets puis faire en sorte que ça... Puis
exact.
Parallèlement à ça, le concours, C'était-tu une erreur de une bonne erreur de parcours? C'est-tu voulu? Ou vraiment au début du band, c'est de dire on va faire comme des concours, des trucs de même, mais essayer de se mettre un peu plus dans la radio commerciale, de positionner le groupe comme étant un groupe qui va. Parce qu'un groupe, c'est un peu comme une petite entreprise, veux, veux pas. Faut, mm-hmm. Si tu veux te payer des tournées, te payer des gros projets comme qu'on va parler plus tard, que forcément ouais. ça a coûté des coûts, mm-hmm. T'as besoin de te placer un peu dans une mentalité de quand même business un peu. Le concours, c'est-tu vraiment. Ou c'est vraiment. En fait, raconte-nous l'histoire du concours. D'où que ça part, ça?
En fait, à ce moment-là, on cherchait juste des occasions pour jouer, tout simplement. On cherchait à faire des shows. Puis on a le concours, on a vu ça comme ça, d'annoncer. On a décidé de participer. Puis non, il n'y avait pas trop une grosse stratégie derrière ça, on va dire. Là, ouais.
Puis ça a permis directement de passer à la radio. Puis de
ouais, on a. Exact. On a gagné la deuxième place, en fait. Puis le prix qui venait avec ça, ben, c'était l'enregistrement d'un EP, puis avec toutes sortes d'autres choses là, qui nous a permis d'avoir un bon début, si on veut, là, en tant que groupe, là, tu sais, puis de se positionner quand même tout de suite assez bien. Puis,
C'était quoi le concours?
Le combat des bandes.
OK.
C'est organisé par la fondation New Rock. Puis, c'est ça, on était comme une trentaine de bandes, je pense, à participer à ça, je me rappelle plus bien.
Je pense à peu près. Hein?
Environ. Puis, c'est ça, on avait, y avait trois places qui gagnaient certains prix, puis on a gagné la deuxième place. Puis c'était bien, ça nous a donné un bon coup de pouce.
Félicitations.
Ben, merci, ça merci.
2/30, là, c'est
ouais, ouais.
un bon chiffre.
Puis là, à l'époque, toi, t'étais pas encore dans le groupe, je me trompe pas.
Non.
Ben moi non plus, en fait.
Toi non plus, OK. Enfin, vraiment, t'es le membre original, ouais. fondateur de fin.
Ouais.
Ben, comme on va revenir un petit peu dans le passé de bord, ouais. c'est quand vous joignez le band, respectivement, dans quel contexte aussi, je suis curieux de savoir un peu, surtout un trio, des fois, ça doit être bizarre. Tu sais, t'arrives dans deux nouveaux visages, ça peut être comme confrontant, non? Je sais pas.
Ben, moi, je suis arrivée dans le band, ça fait 3 ans à peu près, en 2021. En fait, quand je suis arrivée dans le band, on se préparait pour un show à Québec. C'était le Québec Rockfest. C'était pendant la pandémie, donc c'était en formule hybride. Là. Il y avait presque pas de monde dans le public, puis c'était filmé en direct sur Internet. Je suis arrivée, il fallait que j'apprenne les chansons assez vite, là, parce que le show était pas longtemps après quand même, comme peut-être deux mois après.
Le premier EP était déjà sorti à ce moment-là. Ouais. Fait que Alex joue pas sur le premier EP, mais c'est elle qui est sur le deuxième.
Ouais, il était sorti ou déjà enregistré? Ben, 2021, l'EP n'est pas sorti en 2020. Ou il venait d'être sorti?
Il était enregistré, tu as raison, mais il n'était pas sorti encore. Et, ouais, il allait sortir. Ouais, exactement.
Ouais. Puis toi, tu arrives pour le prochain EP, dans le fond?
Non, même pas.
Le prochain qui s'en vient. Ah, vous avez déjà enregistré quelque chose qui s'en vient?
Oui,
ou
mais je pensais qu'il y avait le deuxième, c'était pas moi encore.
Oui, on avait parlé un peu avant. On va revenir au deuxième parce qu'il y a de quoi de le fun autour de ça. Là, mais j'essaie de. On parle un peu avant. J'aime mieux parler un peu de l'avant Albini, un peu dans le sens que je vois qu'il y a quand même. Tu sais, veux pas, ça fait un changement dans vos vies pareil, là, c'est sûr. Ouais. Puis toi, c'est parce qu'on parlait de la job, Yves, avant, puis ce qu'on faisait dans la vie, des trucs de même. Puis t'es impliqué dans le milieu du spectacle, on va le dire, tu sais. Ça t'a-tu aidé, Aubin? Ça t'a-tu aidé, mettons, à des contacts, des trucs de même? Parce que je veux pas, vous avez quand même une petite ascension fulgurante. Puis en plus de tout ça, de ce que je comprends, même en ce moment, vous êtes relativement pas mal 100% indépendant encore, là, tu sais.
En fait, on n'est pas 100%. Ouais, c'est ça. On a fait une entente avec Miar Miar, qui est une compagnie de disques qui vont sortir, en fait, ce qu'on a fait en vinyle. On s'est associé avec eux pour ce projet-là en particulier. Mais oui, en règle générale, on est quand même un band assez indépendant pour tout ce qui est booking de spectacles, pour la production de nos enregistrements. On est encore, on marche encore de façon indépendante. Mais non, c'est ça.
Parce que Miar Miar fait juste distribuer, dans le fond, de ce que j'ai compris.
Ils font du booking aussi.
Ils font du booking?
Oui, ils font une couple de choses.
Beaucoup de shows ici.
Ouais, je pense que selon les bandes, les ententes peuvent différer. Nous, ça joue pas mal autour de la production du vinyle. Mais c'est sûr qu'on va collaborer ensemble pour des shows aussi, pour d'autres choses. Les gars sont super motivés à faire des projets avec nous autres.
Puis vous en pensez quoi là, un peu? C'est gros, j'ai une question qui lève de même, là, mais je vois que c'est une nouvelle tendance un peu là, de ces boîtes de production-là, un peu là, Miar Miar. Je sais qu'il y en a là, j'ai le nom qui m'échappe, mais c'est plate parce qu'il y a, je pense, deux bandes qu'on interview qui viennent de cette boîte-là. Là,
Saguenay,
Mantelin. C'est Mantelin?
Non, pas
au Saguenay. Peu importe. Ou que c'est vraiment des gens qui distribuent des produits et qui bookent des shows, qui font pas vraiment plus que ça. Mm-hmm. Moi, j'ai tendance, c'est la nouvelle. c'est le futur un peu là, pour les artistes, où ça va laisser une bonne liberté. Puis avec tout ce qui est Spotify et tout, ça prend un renouveau dans le domaine de l'agence artistique. Avoir un point de vue là-dessus, je me garoche un peu partout.
Ben oui et non. En fait, pour ce qui est du groupe, nous, comment qu'on voit ça, on s'est toujours demandé, parce qu'on tient quand même à notre indépendance. Pas à tout prix non plus. Quand on était approché par des gens, parce que c'est déjà arrivé dans le passé aussi, avant Miamiar, à deux reprises qu'on s'est fait approcher pour... Bon, ce qu'on se demande, c'est toujours qu'est-ce que ça va apporter au groupe, est-ce que ça va vraiment être positif pour le groupe. Puis ça a été non la réponse à deux reprises avant que finalement Miamiar nous propose quelque chose qui nous plaisait, que c'est ça qu'on voulait faire. Donc donc la réponse a été oui pour Miamiar, mais c'est ça, on y va comme une pièce à la fois, on voit ce qui peut être bon pour nous ou pas selon ce qui vient.
Puis là, durant le courant de l'année, c'est-tu en 2022, 2023, vous êtes parti à Chicago?
Oui, c'est à l'été 2023,
oui. Puis là, Chicago de même, qu'on se lance, j'aime ça faire l'attente un peu, ça me fait rire. Mais t'as-tu envoyé, j'ai entendu dire que ça, t'avais juste écrit au fameux Steve Albini.
Oui, en fait, ben j'ai même pas écrit à lui, en fait, j'ai écrit au studio, à Electrical Audio, le studio là-bas. En envoyant des vidéos, des chansons de ce qu'on faisait, puis en disant qu'on aimerait beaucoup travailler avec Steve Albini. Puis je m'attendais d'avoir une réponse de quelqu'un du studio, si j'en avais une. Mais finalement, c'est Steve Albini lui-même qui m'a répondu. Puis j'étais vraiment content de voir ça. Puis c'était un message très court là, dans lequel il me disait qu'il avait vu ce qu'on faisait, puis qu'il était... Il était willing de travailler avec nous, puis de juste contacter telle personne au studio pour prendre rendez-vous. Puis ça s'est fait comme ça, là, de façon super simple.
C'est quand même, tu sais, on dit des fois dans la vie, là, ça vaut la peine d'essayer. Là.
Faut puis, tenter sa chance.
Ouais,
exactement.
Quand tu sais, c'est Gretzky qui disait ça, chaque tir que tu essayes, chaque tir que tu
You miss 100% of the shots you don't take.
Exact.
J'essaie de le mettre en français pour pas avoir trop anglophone.
Pour le contexte,
la traduction.
C'est certaines personnes qui écoutent, là, puis moi, là,
c'est ça que je m'en allais dire.
Je veux pas avoir de l'air d'un inculte, là, mais...
Moi, je peux te le présenter, je peux laisser eux autres aussi le présenter parce qu'ils l'ont côtoyé, là. Allez-y.
Oui, ben c'est un producteur des... c'est quand même très connu des années 90, vraiment dans le mouvement plus... rock alternatif, grunge. C'est lui qui a enregistré de façon sur bobine analogique des albums comme In Utero de Nirvana, Suffer Rosa des Pixies, Rid of Me de PJRV, Razor Blade Suitcase de Bush aussi.
Fun fact, par exemple, là, on rentre dans des affaires de geeks, mais c'est le fun. Fun fact, de mémoire, In Utero, ils n'ont pas pris sa tête à lui. De mémoire, ils ont pas voulu.
En fait, c'est le mixage. C'est take, voilà. Mais ils ont refait le... faire une partie du mixage.
Parce qu'il existe la version raw
exact.
De cet album-là. Vraiment la version, parce qu'Albini voulait qu'il sorte. Là. Ouais. Je sais pas si vous avez eu la chance de l'écouter.
Non,
là.
Même pas.
Oui, j'ai écouté.
C'est
un petit peu moins poli. Là, ouais.
C'est ça, que j'essaie de trouver papier sablé.
Oh, ouais.
ça marche un peu. Donc, yes. Albini, c'est pas mal un... qui est décédé l'année passée, sans faire même pas un an, là, ça fait quelques mois.
OK. Ouais.
En mai de cette année.
Ouais. Puis lui, c'est un vrai, tu sais, c'est ça, là, c'est un grand nom. C'est pour rien que quand je regardais, tu sais, le deuxième album, vite, ça fait longtemps que j'ai comme perdu le fil avec le band. Je disais, on les voit en entrevue, j'ai regardé le dernier album, ce qu'ils ont fait, tu sais, ils viennent en show, nanana. Je regarde, hein, Albini? Non, ça se peut pas. ils ont osé faire ça. Puis là, on en parle, là, mais juste avant qu'on rentre là-dedans, t'as-tu essayé d'autres producteurs?
Non. Non, pas pantoute.
OK, c'est vraiment le premier que tu décides, que tu spoil, tu y envoies un texto, il te répond direct, tu t'en vas enrichir avec lui.
Ouais, ben en fait, c'est comme je disais, le premier EP, ben, vu que c'était un prix qu'on a gagné au concours, en fait, le producteur nous était imposé, si on veut. C'était Jeff Grenier, un gars d'un studio qui s'appelle Monocube à Saint-Jérôme. C'était incroyable, c'était vraiment le fun de travailler avec lui, mais c'est pas un choix qu'on a dû faire. Pour le deuxième, ben c'est ça. On a pris une chance avec Steve Albini, puis écoute, ça a marché. Fait que,
tu peux pas dire que c'est un choix, par exemple, comme vous avez fait. Là.
Non, c'est pas comme si...
c'est incroyable.
Exact.
C'est
incroyable.
Après l'entrevue, Vanoui, je t'ai montré ce qu'il a fait. Puis lui, même, voyons, l'autre personne qui est au... Mastering, je
Mastering, ouais.
Mastering, même l'autre,
Matthew Barnhart. Ouais.
Même lui, il y a une feuille de route là, qui est assez impressionnante. Là.
Exact.
Mais on va voir ça ensemble après la liste, tu vas comprendre.
Ah, ben là, juste déjà, Pixies, Nirvana, je connais ça.
Ouais, on, le,
à la limite, j'ai un minimum de culture.
Je pense.
On voit que tu étais bien élevé.
Écoute, il a enregistré plus que 2000 albums dans sa carrière.
Le 2033,
si je me souviens bien, parce qu'il numérote tout sur la bobine. Puis la note est numérotée 2033. Là.
Sérieux? C'est
Il y en a fait, il y en a fait vraiment beaucoup.
Avez-vous content pour vous autres?
Avez-vous la bobine avec vous autres?
Ouais, j'ai la bobine chez nous.
Vous l'avez? Ouais. Ça, c'est une belle pièce.
Ouais,
autographiée par Steve.
Vraiment.
J'ai pas entendu, excuse-moi.
Elle est autographiée par Steve aussi.
Ah, c'est vrai, oui, il nous a écrit un beau bravo, puis bravo.
Ouais, c'est bon ça, c'est intéressant.
Avec son nom, puis
Puis à partir du moment que vous avez, là je sais ça va être peut-être répété, mais j'ai pas le choix d'y aller. À partir du moment que vous avez comme le OK, l'échange d'email,
ouais.
Comment vous organisez ça? Vous prenez deux semaines de vacances, vous partez là, puis où vous checkez les horaires avec lui? C'est un projet sur combien de temps?
En fait,
deux jours.
Ouais, c'est ça.
Mais deux jours, mais je veux dire, c'est deux jours là, mais je veux dire, il y a quand même, j'imagine, une préparation avant. Vous n'êtes pas parti, mettons, le jeudi de Trois-Rivières, puis vous êtes monté à Chicago le vendredi. Là.
Non, ça a pris plusieurs mois, en fait, de préparation. Parce que, premièrement, c'est ça, c'est de faire concorder les horaires. Lui avait un horaire extrêmement chargé à ce moment-là. Puis nous, ben c'était une question aussi que ça fonctionne pour le voyage et tout, parce que c'était... Les premiers échanges se sont faits, c'était la COVID, c'était pas terminé.
Ben,
donc,
en fait, j'étais même pas dans le Ben encore, il me semble.
Exact, c'est ça. Donc, c'était encore compliqué, question de frontières puis tout ça. C'est pour ça qu'on a dû reporter ça un petit peu plus loin, puis que finalement, Alex s'est joint au groupe.
Comme ça devait être très bien d'apprendre ça.
Vraiment. je l'ai su, il me l'a dit quand c'était officiel, quand Steve Albini l'a... a répondu oui, je n'étais pas encore dans le Ben, mais déjà, je voulais me greffer une place dans l'auto. Là. J'aurais voulu le rencontrer.
Ouais, c'est normal. Ouais.
Ouais. Puis là, ben, c'est ça, il y a beaucoup de préparation aussi par rapport à toute l'administration autour de ça, parce qu'on passe les frontières, on va faire quelque chose aux États-Unis. Donc, on n'a pas besoin d'un permis de travail comme tel, mais il y a certaines choses administratives qu'on doit faire. On amène du gear là-bas, on ne veut pas être taxé sur notre gear en revenant. Il y a comme pas mal de choses à s'occuper, donc ouais.
Puis lui, puis vous êtes à l'aise de répondre, je veux pas nécessairement de chiffres, mais ouais. Quand vous avez l'échange avec lui, y a-t-il un deal monétaire où vous faites ça gratuitement tant que vous payez les dépenses? Parce que tu veux pas, là, juste les dépenses, c'est de l'argent, mais travailler avec lui, ça a-tu, tu sais, je veux dire, vous êtes un band encore émergent, tu sais, je veux dire, c'est ouais. Pas, ça roule pas nécessairement sur des millions, là.
En fait, il y avait une éthique assez particulière à ce niveau-là. Puis pour son studio, oui, il y avait un deal monétaire, mais qui était vraiment raisonnable, on va dire. Ça nous aurait coûté la même chose d'enregistrer avec n'importe qui à Montréal ou whatever. Puis non, c'est ça, c'était vraiment... Il y avait un tarif pour son studio qui était standard, là, puis c'était plus que raisonnable, ouais.
Fait qu'il vous a choisi, dans le fond.
Ouais, ben, en fait, il est très occupé, donc il est très sollicité. Donc, oui, j'imagine qu'il doit choisir les projets qui lui tentent de faire. Puis,
Puis toi, Nick, mettons, je pense à ça, là, tu rentres dans le Ben, mettons, là, puis il y a ça d'accompli. Nanana, ça c'était un stress de plus ou une motivation pour toi?
Non, c'était pas un stress. Quand je suis rentré, le stress, c'était d'apprendre les tunes.
Ouais.
C'était pas nécessairement parce que quand j'ai écouté l'album, ça m'a fessé dans le dash, le EP, le deuxième EP. Quand t'écoutes le premier puis t'écoutes le deuxième, tu te demandes quasiment si c'est le même band. T'sais, tu vois que les influences sont les mêmes, mais le son est vraiment pas pareil. Ça m'a accroché pas mal. Fait que tu sais, aussitôt je me suis familiarisé avec le son, il fallait vraiment que j'apprenne les tunes. Parce qu'on a fait un show, je suis rentré dans le band au mois de janvier, puis on a fait un show en février, me semble. Il me semble qu'on avait joué fin février à Sorel.
À Sorel, oui.
Ouais. Fait que ça n'a pas été tant long. Là. Puis entre ça, tu sais, il était parti pour la job. Fait que ça n'a pas été simple. Mais non, le focus était vraiment d'apprendre les tunes. Il n'y avait pas de stress. Là. Le stress, c'est pas ma tasse de
tout. Non, ça doit être plus à la limite une motivation.
Oui, parce que c'était le genre de band avec le genre de son et le genre de tune que je cherchais depuis des années. Tu sais, j'ai joué avec un paquet de bands, j'ai joué dans les hommages, mais je voulais recommencer à jouer avec un band original, un band de compo. Puis c'est quand il m'envoyait les tunes. On s'est jasé en décembre l'année d'avant. On s'est jasé, puis il m'envoie les tunes. Je commence à écouter ça. Je dis, hey, ça sonne bien. Tu sais, il y a vraiment de quoi à faire avec cette band-là. Là. C'était comme, c'est encourageant. Puis en plus, Yves, il me dit, ben, on fait des shows, puis tout. Puis, là, c'était ça, mon minding, là, c'était de faire des shows. S'il m'avait dit, on fait juste jouer dans le sous-sol, ben, j'aurais dit, ben là, non. Tu ne dépenses pas autant d'argent en musique pour juste jouer dans ton sous-sol. Là. Ceux qui le font, c'est bien le fun, mais moi, c'était pas ça. J'étais rendu ailleurs. Si on pouvait jouer des shows à toutes les fins de semaine, je ferais des shows à toutes les fins de semaine. Là,
ça, c'est un message pour les bookers, le Trois-Rivières, ben, le Trois du Québec, en fait. Puis tout,
nous sommes prêts. Ça,
mais puis on revient un peu, parce que j'ai du coup de parler d'Albinet un peu, mais en même temps, je sais qu'on en a déjà parlé dans l'autre entrevue. J'essaie de varier un peu mes questions. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience-là? Y a-t-il quelque chose, mettons, dans sa façon de travailler, sachant que lui enregistre tout en, bon, en analogique, dans des bobines, ouais. Qu'il enregistre tout le band ensemble, bien souvent dans des lieux, que ça va être des chalets, des places un peu funky, là, ça, j'ai entendu d'histoires de même. Mm-hmm. Y a-t-il des trucs que vous avez vraiment appris de cette expérience-là? Vous avez ramené ça ici avec vous dans votre bagage, soit de technique, de discipline, de whatever, tu sais?
Ben, je pense qu'on a surtout appris à arriver bien préparé. Là. C'est sûr, comme il disait, c'était quand même beaucoup de préparation. C'était juste 2 jours. On a enregistré 5 chansons en 2 jours, donc ça allait vraiment très rapidement. Puis c'est ça, surtout sur bande analogique, il n'y a pas vraiment de place à l'erreur. Fait que on n'a pas l'occasion de se reprendre plein de fois. Donc, on a surtout appris, je pense, à être discipliné puis préparé. Ouais. De mon côté, c'était
puis
surtout ça.
Apprendre à vivre aussi avec l'erreur, puis à privilégier l'énergie des fois. Puis ouais,
aussi.
Puis ça, c'est un niveau-là, si vous avez pratiqué comme plus que d'habitude avant en jam de groupe, ou c'est juste vraiment le mindset surtout là, qu'on parle de préparation?
C'est plus de la pré-prod, des maquettes qu'on a faites pour s'assurer que c'est ça, que ça sonnait vraiment bien, qu'est-ce qu'on faisait, puis que c'était tête et tout. C'était surtout des maquettes, de la pré-prod.
Puis vous étiez en studio? Ou vous étiez dans un lieu qu'il avait choisi d'avance ou
À son studio à lui, à Chicago, en fait, Electrical Audio. Ouais.
Direct chez Electrical.
Ouais.
Tu dors du beau gear là-bas. Des personnalités passer là pendant que vous enregistrez des gens, peut-être du milieu. Vous avez j'ai croisé lui ou j'ai été un peu de façon fan.
Kurt Cobain qui est encore vivant, qui rentre dans la porte.
Non, mais fun fact, on ne l'avait pas dit au Clash Podcast, mais en fait, Jack qui a enregistré avec le drum de Bush. Okay. Donc, sur l'album Razor Blade Suitcase.
Bush est un band connu fin 90-2000, Vanois.
Ok. Oui. Ouais. Ben, merci de me le dire parce que là, j'aurais fait
comme. Ah, ok. On va appeler Bush X aussi.
Ouais, ben, avant, c'est l'ancien nom, en fait, je pense.
Je sais pas. J'ai pas assez écouté de Bush pour ça. Là, c'est pas. Ils ont des bonnes tunes, mais c'est pas mon. Attends, mon. Mais ça reste un grand nom. Là. C'est quand même le fun d'enregistrer ce drum-là. Puis de...
Mais oui, c'est sûr.
Puis vous êtes resté à Chicago, mettons, vraiment juste aller-retour, vous allez profiter de rester là un peu, puis...
Ouais, ben une semaine, on s'est promené pas mal quelques jours avant, puis c'est la fin de notre voyage, c'était les 2 jours à Electrical Audio.
Le temps d'aller voir une game de baseball, de faire un peu de plage, puis...
Ben, tu sais, il faut, là, aussi, là.
Tant qu'à y aller, tu sais.
Tant qu'à y aller, c'est...
Profiter de la place un peu.
C'est un minimum, c'est bien normal.
Ouais.
Une belle ville, là, surtout.
Ouais, ben c'est ça, Chicago, c'est quand même la ville du blues, un peu, là, de mémoire. Et je sais qu'il y a Nashville aussi, là, j'essaie de pas... Bref, on s'en fout, là, c'est pas bien important. Mais là, on sort de ça. Là. Albini, ça sort. Là. Bon, vous avez tout sorti des tracks, ça a sorti le EP. C'est un EP, hein, je sais pas.
Ouais, wow, c'est un EP, 5 chansons.
What's next, après ça? Tu renvoies un email à qui, là?
À Butch Vig.
Ouais, on pourrait essayer. Après ça, écoute, on veut jouer le plus possible. On aimerait ça faire des festivals cet été. On a appliqué sur quelques festivals d'ailleurs. On espère d'avoir des réponses. Sinon, un troisième EP éventuellement, ou peut-être même un album, on va voir. Mais il n'y a pas de plan concret parce que, écoute, on veut faire vivre lui un petit peu, le deuxième. On veut le promouvoir en spectacle puis le faire connaître. Il tourne un petit peu à la radio présentement, fait que c'est vraiment cool. Fait que...
Ça ressemble à quoi les shows le restant de l'année, vous?
Après celui-là, c'est quoi votre prochain?
Ah ben c'est quoi, c'est fin janvier ou début février?
En fait, on a un en décembre, je pense, le 28 décembre, mais ça va sortir très bientôt. En fait, on a une petite tournée là, d'une dizaine de spectacles qui s'en vient entre janvier et 1er mars, mettons, là, environ.
Puis on... je comprends que vous n'avez pas de réponse fixe à me donner là-dessus, mais je me demande, on brainstorm, mettons. Ouais. L'expérience Albini, ça ferait-tu ouvrir des portes pour aller tourner un peu plus aux États-Unis? Je sais qu'on vous chante en français, là, ça peut être un peu plus difficile d'accès, mais en même temps, au niveau de la sonorité, le fait que ça a été enregistré par un grand américain, des trucs comme ça, ça peut-tu comme aider, mettons, favoriser, ouvrir une porte d'ouverture, peut-être aller à Chicago, justement, faire quelques dates, des trucs comme ça? Puis en seconde question là-dessus, êtes-vous sorti du Québec?
Non, pas encore.
On n'est pas sorti du Québec, on aimerait vraiment ça, on aimerait beaucoup aller en France éventuellement, c'est un de nos objectifs. Les États-Unis, ben c'est ça, c'est la barrière de la langue qui complique un peu les choses. Encore là, pour un spectacle ou deux, je suis sûr que ça pourrait se faire, puis ça serait le fun, puis que ça serait le fun, quelque chose de vraiment trippant à faire. Mais je sais pas là, à quel point il y a quelque chose pour nous là, vu qu'on chante en français, puis je pense pas qu'on va changer ça bientôt. Là, fait
que... je suis curieux d'entendre les trois là-dessus, même, peut-être même Ivanoué. Pensez-vous que la langue... Quand je présente ça, est-ce que le style de la langue versus le style de musique peut influencer les barrières, les portes que tu peux t'être ouvert aux États-Unis, dans le sens que je vais m'expliquer. Tu joues dans un band de cold wave, dark wave, gothic, metal, whatever, qui scream ou qui écrit gutturaux, tu comprends pas tes paroles, tu dis la langue, c'est pas vraiment une frontière. Penses-tu que c'est ça qui peut jouer aussi un peu dans le sens que, parce qu'Ivano fait du rap aussi, qui est de très lyrical. Vous avez quelque chose de très lyrical, mélodique dans votre voix même, tu sais, je veux dire, c'est, on pourrait prendre la même bande vocale, je pense, puis la mettre sur une autre bande musicale, puis on pourrait changer complètement de style de musique, là. Mm-hmm. Pensez-vous que ça peut être un peu une barrière pour ça?
Je pense que oui, plus que les paroles prennent de l'importance dans patente, ben c'est sûr que... Plus que si tu changes de langue, il t'en manque un gros morceau. Là.
Ben j'ai tendance à dire que oui, moi aussi, mais en même temps, il y en a qui entendent la voix comme étant un instrument aussi, tu sais. Je veux dire, j'écoute des chansons en anglais, je parle anglais, des fois je n'apporte pas nécessairement attention aux paroles, puis la mélodie de la musique va juste me laisser m'emporter. Mais ça, je me pose la question. C'est peut-être pas une question si pertinente, mais en même temps, avoir des avis différents, peut-être, ça pourrait être intéressant. Mais pas si unanime aussi, tu sais, on pense toutes la même chose, on s'en est une barrière, là.
Moi, je sais exactement quoi répondre. Moi, ma réponse est clairement non, fuck all. J'écoute du rap en espagnol, en allemand, en russe, j'en écoute en japonais, j'en écoute en français, en anglais. Puis ici, il y a des bands qui ont n'importe quelle langue, puis ça change pas le fait que le monde vient les écouter. Ouais. Comme je pense que celui d'une autre langue qui est pas en anglais ou en français, qui est en espagnol, c'était Kira Chao, puis c'était un des meilleurs shows. Puis tout le monde, personne ne comprenait les paroles. Mais c'était cool pareil.
Ah ouais.
Vraiment.
La musique, c'est un langage universel. Fait que ça, c'est sûr que ça peut.
Une bonne mélodie, ça va rester une bonne mélodie, que ce soit n'importe quelle langue. Regarde, Rammstein, là, on ne comprend pas ce qu'il dit. Puis il y a gros du monde qui capote là-dessus. Il va au FEC puis il remplit le FEC. Mais le monde, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. C'est une mélodie. C'est la mélodie qui prime avant les paroles. Puis là-dessus, Yves a choisi de faire ça en français. Puis. C'est un bon choix. Actuellement, c'est un bon choix parce qu'on a des bonnes mélodies et on a des bonnes paroles qui vont avec pour fitter avec ça. C'est juste correct, c'est juste parfait.
Oui, je suis complètement d'accord. J'irais tourner au US avec ça pareil. Là. On essaye si,
Pourquoi
rien à perdre.
En même temps, c'est pas vraiment le marché qu'on vise des États-Unis. Là. C'est plus, c'est ça, ici puis en France, plus la francophonie. Je veux dire, on changerait pas ça pour. Pouvoir avoir une visibilité aux États-Unis.
C'est quoi, ça prend la place du français dans votre musique?
Une grosse place, je pense. Je ne me verrais pas faire ça dans une autre langue que le français. C'est ma langue maternelle. C'est la langue qui est le plus connectée à ce que je pense et ce que je ressens. Fait que c'est,
Je pose la question de même puis je vais vous en savoir pourquoi parce qu'il y a une deuxième qui s'en vient un peu après. C'est quoi vos influences musicales?
Moi, j'aime beaucoup le rock des années 90, Smashing Pumpkins, ces trucs-là.
Ben, même chose pour moi. Là, je suis vraiment fan des années 90, rock alternatif, grunge, mais ben bref, c'est pas mal. Garbage, Nirvana, les Smashing Pumpkins aussi, L7, les Melvins aussi.
Classique, Melvins, L7, ça, par exemple, on l'entend un peu moins souvent, ça c'est le fun.
Je fais pas mes changements, je suis pas mal dans le même moule. Là. Quand Yves m'a dit qu'il aimait ça, Smashing Pumpkin, je fais « Oh boy, on parle le même langage. » J'ai commencé à jouer du drum avec Nirvana. Fait que...
Je suis déçu, il y a personne qui a nommé Alice in Chains, par exemple.
Ouais, hein?
Non, comment? Désolé, ça, moi, non, moins. C'est pas mon bag.
Ouais.
Je pensais que c'était le seul point commun qu'on allait avoir.
Ben, Melvin, c'est pas pire. Je te ferai écouter ça à un moment donné. Ils ont des affaires flyées, là, live, là, des fois à trois drums. Là, des affaires... Les gars sont créatifs.
Contribuent à la culture.
Ouais, ils sont bizarres un peu, puis ils sont le fun. Je vous ai posé ça parce que la deuxième question, avez-vous des influences qui sont plus québécoises, francophones, qui pourraient peut-être influencer le fait que tu chantes en français?
Des influences, je sais pas, mais oui, il y a plein d'artistes francophones que j'aime. Dans le rock, il y a un groupe qu'on aime beaucoup. Ben, je parle pour moi puis Alex. Là, je sais pas, Nick, si t'aimes ça. Les Vulgaires Machins, moi, j'adore ça. J'aime quasiment l'entièreté de ce qu'ils ont fait. Sinon, je suis pas un gars qui écoute du rock tant que ça, à la base. J'écoute plein de choses. On en parlait Ginette, l'autre fois. Ben oui, c'est ça, on en parlait l'autre fois au Clash, mais je suis un fan de Ginette Renaud. Je suis un fan de... J'écoute plein de choses, vraiment. Ouais.
Je pense qu'on va s'en aller bientôt vers la
deuxième segment.
Mais tranquillement, pas vite, non, c'est ça.
Moi non plus, d'ailleurs.
Puis là, on pense écrire bientôt, on part faire des shows. Y a-tu de quoi avant qu'on parte? Ah, gars, j'ai de quoi avant qu'on parte? De voir ton deuxième segment. Je pense tout le temps à cette question-là maintenant en finissant. Puis à date, on a vu des histoires crunchy, mais j'aime ça. Vous des anecdotes de show qui ont bien été ou mal été, un des deux? Si ça a mal été, par exemple, faut qu'on puisse en rire à la fin. Faut pas que ça soit juste lourd.
pas tant, en fait. Non.
Moi, je pense qu'Alex en a.
Peut-être qu'Alex en a, je sais pas.
Ouais, ben c'est plus... Ça n'avait pas répondu tout à fait à nos attentes, là. C'est parce qu'on est fait comme... on était super bien reçus, puis tout ça, là. Mais je veux dire, on a peut-être mal booké notre affaire parce que c'est 4 heures de route environ.
Pour grand-chose.
Qu'il y ait 3 personnes qui se plaignent du bruit, là.
Ah, ouais, OK, classique.
Mais sinon, on était bien reçus, la bouffe était bonne. On avait une chambre gratuite dans le dortoir avec... alcool à volonté toute la soirée, donc ça a compensé.
C'est une belle soirée pareil, c'est juste pas le meilleur show, on va dire.
Ouais, alcool à volonté, moi, tu peux oublier ta soirée.
Ouais, c'est ça.
T'as volé ma réponse.
On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous rappeler dans le fond qu'il y a des spectacles qui s'en viennent. 25 janvier, Jet Sam, c'est au Zenob, 10$, 21h. N'hésitez pas à y aller, c'est un show, ça va passer un petit peu, ça va être le fun. Sinon, le 31 janvier, Décli, c'est gratuit, c'est à 23h. Notre DJ Trifluvien en résidence, on est faire un petit chaleur de Décli, ça va être le fun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, via Facebook, on a un beau petit statut qui va vous permettre de poser des questions aux artistes, vous en avez pour les prochains épisodes. N'hésitez pas. Puis sinon, une autre.
Likez, partagez, commentez, envoyez ça à vos amis, ça nous aide énormément, puis c'est absolument gratifiant et incroyable. Bon reste d'épisode, bon visionnage, bonne écoute!
Yeah! Les autres, après, on aime bien l'approche des Hawaii, nous autres aussi, tu sais, même de rien, on parle de rien. Puis, c'est bizarre de dire ça. Mais, ouais, on garde ça.
OK.
Cool.
Si tu pouvais réaliser ton clip, ce serait quoi le concept? Ce serait quoi que tu voudrais voir à l'image?
T'sais, tout ce qui me vient en ce moment, c'est pour mon autre projet, mon side project... Futur moi, je travaille actuellement sur un projet en stop motion avec une maquette avec des jouets, là, Fisher Price. C'est ça qui me vient en tête pour le moment. Mais non, c'est ça que, comme je dis, moi, je suis vraiment fan de l'approche DIY. On dirait que j'aurais des millions de dollars que je saurais pas nécessairement quoi faire de plus qu'avec un petit budget.
Toi, je suis sûr que tu vas me sortir une réponse de malade.
Moi, j'aimerais ça faire de quoi qui se passe dehors avec plein d'animaux. Tu sais, mettons, des éléphants, des affaires gros budget.
juste pas assez d'imagination. Un certain clip de Street Light Manifesto, mais genre avec des vrais animaux.
Ouais, c'est ça, que ça prend un énorme budget que tu peux pas faire d'habitude, là, genre avoir des autruches.
Des autruches?
Will You Be Impressed refaite, mettons, en 3D graphique ou avec green screen, il y a quoi de bizarre avec ça, tu sais.
Ouais.
Je parle de ça, mais c'est la référence qui vient en tête, là, mais...
Ouais. Quelque chose comme ça, mais en vrai, là, tu sais, comme qu'on est dehors en Afrique, là, quelque part. Puis, avec plein d'animaux.
C'est cool.
Ça serait hot, non?
C'est mieux qu'au Zugrambe.
Je pense qu'il y a un je pense d'aller en Afrique dans pas long, les amis.
Préparez-vous pour la tournée. Deuxième question. Êtes-vous épanoui musicalement? Trouvez-vous que dans le projet de Fan, il vous manque quelque chose?
Ben, comme j'ai dit tantôt, moi j'aimerais ça qu'on gigue plus, mais en même temps, on a toutes des réalités professionnelles là, qui font que le temps est plus limité. Puis les places pour giguer, il n'y en a pas des millions non plus. Là. C'est plate, là, mais les bandes de la relève, on ne peut pas jouer partout. Aller jouer dans une place comme l'Entité, que la salle coûte super cher à louer, pour l'instant, c'est pas envisageable. Là. Mm. Mais giguer plus. Mais pour le reste, non. J'ai du fun avec le band. C'est ça qui est le plus important. On gigue, on pratique, on a du fun. On se paye la tête d'Alex parce qu'on aime sourire un peu d'Alex des fois.
Ouais, pas tant que ça.
Mais non, c'est sûr que si j'avais plus de disponibilité, j'aurais aimé ça avoir un petit side project aussi. Mais pour l'instant, là, c'est pas tant l'occasion pour ça. Mais je consacre mon temps de musique est consacré à fin exclusivement pour l'instant.
J'ai une question pour toi, Nick. Tu parles depuis le début beaucoup de gigs, de jouer live. Nanana. T'es-tu particulièrement attaché aussi à mettre ton nom sur un peu avec fin ou tu dis, hey, honnêtement, moi, je peux faire les mêmes tunes tant qu'on joue live?
Non, pas vrai. J'ai hâte qu'on en fasse un troisième là, si ça se concrétise dans les prochains, je dirais prochains mois, là, pas dans les prochaines semaines. Là. Ça va être plus une histoire de l'été prochain ou un petit peu plus loin, j'imagine. Parce qu'on a déjà commencé à travailler des tunes, puis on va en jouer ce soir, puis ça sonne. Puis je commence à mettre ma touche un peu plus. Là, t'sais. J'ai pas le même style que Jack, le précédent drummer. Je suis un petit peu plus rentre-dedans. J'essaie d'adapter aussi. Il y a des tunes que j'essaie de m'adapter un petit peu plus. Mais j'ai déjà fait un album en 2007. Puis ça avait été une grosse journée. Pour vrai, on avait tapé ça dans une journée. Puis ça avait été une journée de l'enfer. Mais on n'était peut-être pas assez prêt non plus. Là. On s'était tapé une grosse job. Mais je pense que nous autres, quand on va se mettre là-dessus, on va être 100% prêt. Là. Fait que pour ça, avoir un nom sur un album c'est, ou un EP, peu importe, c'est nice, c'est vraiment le fun. Tu laisses ta marque, tu laisses ta mini-empreinte musicale tu sais, dans le monde de la musique. Mais j'ai pas un ego assez gros pour dire « Ah oui, moi, je veux mettre mon nom partout. » Je suis pas Josh Freese là, qui a joué sur 200 albums. Je suis pas là. Ça arrivera pas. Là.
Ça. Toi, considères-tu qu'avec Fan, vous êtes épanoui musicalement? Est-ce qu'il vous manque quelque chose?
Ben, spontanément comme ça, je trouve pas qu'il manque grand-chose. Ben, à part, ben, tu sais, je pense que je dirais plus comme Nick, moi aussi, j'aimerais ça faire plus de shows. Mais en tant que tel, ben, personnellement, je me réalise quand même plus à travers les enregistrements qu'on fait. Donc, c'est ça, je veux dire, on peut pas en faire à chaque mois non plus. Faut laisser vivre qu'est-ce qu'on vient de sortir aussi. Fait que non, c'est ça, je dirais, je suis pas mal épanouie en général. Mais oui, quelque chose de plus souvent, ça se prendrait bien aussi.
Et toi?
Ben, un peu la même chose. Je suis bien content de l'évolution de Fan jusqu'à maintenant. Je pense qu'on serait peut-être rendu à essayer de se renouveler un petit peu pour le troisième, arriver avec quelque chose qui va surprendre un petit peu, là, tu sais. Puis, mais sinon, c'est ça, on a tout l'espace du monde, tout le temps du monde pour faire évoluer le projet encore. Fait que c'est juste positif.
Giguer plus.
Ouais.
Giguer plus.
Ouais, tout le temps.
C'est pas mal.
Ouais.
C'est bon, c'est excellent que vous soyez tous sur la même longueur d'onde.
Ben en fait, on est un band qui joue beaucoup, je pense, là, dans les bands qu'on côtoie. On est dans ceux qui sont le plus actifs, je pense, là, parce qu'on essaie de se booker le plus possible.
C'est une question que je pose souvent. J'ai pas nécessairement pensé à poser tantôt, puisque vous êtes peut-être moins dans les projections live et tout. Mais j'avais posé ça à d'autres groupes avant, puis je trouve ça intéressant. Êtes-vous plus un band de prestations live ou un band de studio? Pour vous, c'est plus important la musique qui va sortir, comme mettons, du contenu, ce qui va jouer à la radio, ce qui va jouer sur Spotify, qui va jouer sur les plateformes de streaming? Ou pour vous, c'est vraiment le point de vue live, c'est vraiment plus là, vous allez comme vous épanouir?
C'est une grosse question. Moi, en tant que personne qui écrit les chansons, je dirais que le travail de studio a quand même une grosse importance. C'est le moment où la chanson va être comme fixée pour toujours. F- Fait que c'est pour moi, ça a quand même une importance supérieure à tout le reste. Mais je pense que effectivement, les commentaires qu'on a, c'est souvent qu'on est un band qui est le fun à voir live. Les gens live, ils découvrent comme quelque chose qu'ils perçoivent peut-être pas nécessairement sur les enregistrements. Fait.
Je suis assez d'accord avec Yves. En fait, ben, écoute, comme je disais juste avant, je me réalise beaucoup plus avec les enregistrements studio, parce qu'il reste que ben, c'est ça qui vit après, c'est ça qui existe pour toujours et qu'on peut réécouter toujours. Là. Donc, moi, ça serait vraiment plus l'aspect studio.
Comme j'ai pas fait le studio avec Fan, je suis obligé de dire que la portion live, pour moi, c'est ça qui fait la différence. Là. On a beaucoup de feedback du monde quand on joue. Là. On était joué à Montréal, il y a du monde qui criait. C'était mongol. On avait une réaction, c'était hallucinant. On a quand même fait 12 shows là, cet été, là, en même pas 4 mois. Là, on a fait 12 shows. C'est le fun. Tu sais qu'à toutes les fins de semaine, tu as une gig ou même des fois deux. Là, la réponse du live est jamais pareille. Oui, l'album, c'est cool parce que oui, t'as quelque chose, t'as laissé quelque chose dans l'univers, t'as laissé ton empreinte musicale. Mm-hmm. Mais quand tu sors ça live, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose.
Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je comprends pas. Hein? Ouais, j'ai pas catché. Quoi? C'est excellent. Bon, prochaine question. Si vous deviez changer d'instrument, là, t'sais, tu peux plus jouer de drum, tu peux plus jouer de bass, tu peux plus jouer de git, lequel vous prendriez? Lequel vous jouez?
Ben là, ouais, ben dans mon cas, la question est quand même assez facile à répondre parce que je joue de la git depuis 20 ans, entre autres dans mon autre projet Futur Moi. Donc, ouais, je répondrais la git facilement. La bass, je veux dire, ça faisait longtemps que je grattais la bass comme ça, mais je m'identifie en tant que bassiste depuis 3 ans, depuis que je suis enfant. C'est mon premier projet à la bass, en fond.
Je m'identifie comme bassiste.
J'aime ça. Double identité.
C'est rendu ton genre.
Tonique.
Toutes les fois, je fais des shows, je me dis que c'est une calisse de mauvaise idée de jouer du drum. Parce que j'ai tout le temps trop de stock à traîner, puis ça n'a pas de crise de sens. Je me convertirai au triangle ou à la tambourine.
Chanteur, juste un micro.
Mais chanteur, ça serait parfait, parce que j'ai joué souvent dans des projets que les fucking chanteurs, ils traînaient pas un hostie de morceau de stock, puis ils arrivaient 5 minutes avant le sound test. Là. Ça a ruiné des projets, ça, malheureusement. Salut. S'ils se reconnaissent.
Ah, OK! C'est quand il est là aussi.
Non, c'est ça. Chanteur, pour vrai, chanteur, j'aurais aimé ça. J'avais le goût d'aller prendre des cours de chant en cachette puis d'emmener d'essayer de partir un projet. J'ai essayé la guitare, ça marche pas. J'ai des doigts de marde. J'ai essayé la bass, ça marchait pas pire, mais ça avançait pas assez vite. Fait que je vais rester au drum, je vais traîner mon stock puis je vais chialer à toutes les fois. Puis tout le monde attend après moi parce que c'est long à setter, parce que j'ai plus de morceaux. Mais c'est ça.
Drum électrique, man?
Ah, j'ai déjà eu ça, mais non.
Je comprends.
C'est pas de fun vibe. Avec ça en live. Là.
C'est pas le même vibe.
Toi? Moi, peut-être le drum, parce que vu que je le monte pas à toi chaud, ben, je suis pas encore tanné.
C'est bon, c'est... Si vous deviez changer de style musical avec Fan, personnellement, lequel vous devriez faire? T'sais? Ça peut être absolument n'importe quoi. Ben, peut-être pas du classique, là, mais t'sais.
Peut-être pour faire complètement différent, tant qu'à être là, je dirais peut-être quelque chose d'un peu électronique, dark, un peu genre à la Depeche Mode ou quelque chose comme ça. Là.
Bon, ouais, c'est dark way.
Moi, quand j'ai commencé à jouer de la musique, j'ai essayé de jouer du métal, puis ça marchait pas parce que c'était trop raide. Là. Un pédale double en partant, quand tu sais pas jouer, ça marche pas. Là. Mm-hmm. Mais si j'avais les skills là, vraiment pour jouer ça, j'aurais aimé ça jouer dans un band de métal. Ouais. Juste pour le fait que c'est plus physique, tu sais, double kick, puis ça grouille. Puis, tu sais, il y a des bands que j'aime encore de métal que j'écoute. J'en écoute pas mal moins qu'avant, c'est sûr. Mais, tu sais, mettons, je te dirais, mettons, moi, Injustice for All, Metallica, ça va rester un hyper classique quand tu écoutes ça d'un bout à l'autre. Puis, c'est jouer dans ce style-là, ça aurait été correct.
Puis, corrige-moi si je me trompe, mais particulièrement Justice for All, il me semble que tous les drummers finissent par sortir cette titre. Tu sais, il y a de quoi sur le drum de cet album-là là, qui est cherché, particulièrement les musiciens qui vont jouer cet instrument-là.
Le drum est mélodique dans cet album-là. Le drum, c'est une mélodie. On se souvient tous du bout de la passe de One, là, les sixtolets sur le bass drum. Tout le monde se souvient de ça. Il a rentré une mélodie dans la tête du monde. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis Lars, c'est un drummer très moyen, qui accélère et qui ralentit. Mais il a rentré des mélodies. Puis ça fait une différence. Tout le monde se souvient de ça. Fait que, moi, si jamais on enregistre et je suis capable de rentrer une mélodie dans la tête de quelqu'un, qu'il soit drummer ou pas, j'ai fait ma job. Là. J'ai accompli quelque chose. Là. Fait que je pense que si j'étais capable, ça serait ça. Mais c'est plus question de skills parce que ces gars-là, on est vraiment des méchants skills. Là. C'est ailleurs. Là. Comme le gars, je sais pas si vous l'avez vu, le gars avec la barbe, là, le El Estepario, là, vous allez voir ça sur YouTube. Là. El Estepario. C'est un genre de... C'est pas un Cubain, là, mais un Espagnol là, qui joue à une main. Il joue plus vite que moi, je joue à deux mains. C'est mon goal. Mais c'est ça.
C'était le drummer de... Comment ça s'appelle? Je m'en souviens plus, mais il pognait, comme le monde qui font du xylophone, il pognait deux baguettes comme un peu en Wolverine, puis il drummait avec ça. C'était... Hey, ouais, comment qu'il se pète pas les doigts, man? Pognait ça en V, littéralement. Je trouvais ça incroyable. Ah. Bon, hey, on s'est tellement éloigné. Toi, tu devais changer.
C'était quoi la question?
Tu devais changer de style musical avec Fan. Qu'est-ce que tu ferais?
Pas seulement avec Fan. En fait, tu fais jouer dans un autre style musical complètement. En fait, oui.
Écoute, je sais pas. Je serais peut-être un homme orchestre avec. Avec un bass drum.
Plus comme du blues,
des cymbales, puis un petit singe ici, tu vois.
un petit singe avec des cymbales.
Ouais. C'est quoi ton rapport avec le côté technique de la musique? Ce qui est tout l'enregistrement, ce qui est le côté gear, ce qui est le côté... Je te pose la question, sachant que t'as comme un lien avec ça un peu, puis t'as l'air un peu... Tu sais, on parle d'albino, on parle de la production, des trucs de même.
Ouais.
C'est quoi ton lien avec ça? T'as-tu un plaisir particulier à faire ça? T'as-tu mixé,
masterisé? J'ai un côté geek un peu, là. J'aime bien le matériel, le studio, puis j'ai un studio chez nous.
Fait. OK, ouais, t'as un studio chez toi. Ouais. Puis je dis ça aussi, parce que les gens qui le savent pas, il y a le classique Big Muff aussi dans tes pédales. Tu portes ta attention particulière des fois au choix de gear. J'ai remarqué genre, ça, c'est un gars qui a fait ses devoirs là,
effectivement le gear il est bien choisi pour le son qu'on veut là, puis tout est pensé
puis pour sure sa question évanouie pour ça fait que si tu joues dans un autre style de musique on parle d'orchestre des trucs de même puis, le côté matériel serait important peut-être dans le son la modulation du son et tout je trouve ça intéressant ce petit côté-là il y a tout le temps quelqu'un dans un groupe qui est un peu plus porté là-dedans là.
Ça en prend un je pense
Prochaine question on est prêt mort ou vivant on s'éloigne un petit peu du côté question musicale mort ou vivant là, si tu pouvais prendre une bière avec n'importe qui personnalité connue ou juste quelqu'un qui te fait vibrer avec qui tu prendrais ce verre-là?
Ben moi, définitivement, ce serait avec Shirley Manson. C'est vraiment mon idole, là, la chanteuse de Garbage. Ouais, c'est vraiment un modèle pour moi, je dirais. Ce serait elle.
J'aurais le goût de te dire Dave Grohl, mais avec ses opinions politiques des derniers mois, je suis plus là pantoute. Là. Jimmy Chamberlain de Smashing Pumpkins, le drummer.
OK, ouais.
C'est un gars qui a traversé beaucoup de shit. Là. Il y a eu des histoires de drogue et tout ça. Là. Puis il est revenu sur la coche. Puis pour l'avoir vu en chauve là, pas si longtemps, c'est une machine de guerre. Là. C'est... Ce gars-là doit avoir tellement à dire, là, tellement à... Ça doit être fourrette. Là.
Il y en a des histoires à raconter.
Ah oh, ouais, tu sais. Dave aussi, probablement, mais Dave, regarde, trompe sa femme. Puis il fait un paquet de petites niaiseries. Regarde, on va laisser faire Dave, mais. Ouais, dans le monde de la musique, il y a plein de monde intéressant. Ça, c'est clair. Il y a plein de monde qui ont des histoires. Tout le monde aimerait ça parler avec Kurt Cobain, même si en one-on-one, c'est peut-être un gars qui n'a rien à dire.
Ouais,
probablement. Qui est fuck-all puis qui est gelé ben dur puis il n'a rien à dire. Fait que, ça serait plus... Je sais pas. Tant qu'à avoir une chance de rencontrer quelqu'un comme ça, tout ça, aussi mal d'avoir quelqu'un de vraiment intéressant qui va te faire... qui va t'emmener ailleurs, qui va te faire grandir, qui va te faire apprendre des affaires. Puis je pense que, tu sais, Jimmy... Il pourrait me donner le goût de me défoncer encore plus sur mon drum. Puis de les faire mes fucking rudiments, prendre encore meilleur, tu sais, parce que lui, c'est un master.
Tandis que Kurt, lui, va juste te donner le goût de plus te défoncer.
C'est ça, j'allais dire. C'est pas ma joke.
Pour tes drops, Ivan, il faut pas que t'attendes que je le fasse.
Je le sais, mais là. Toi?
Moi, j'aurais peut-être aimé ça prendre une bière avec Lucien Francoeur avant qu'il nous quitte trop tôt, là, pas longtemps.
C'est la deuxième fois que Lucien Francoeur vient dans l'entrevue, pour prendre une bière avec cette question-là spécifiquement.
Cette question-là, je l'aime parce que ça en dit beaucoup sur la personnalité de la personne.
Ben, écoute, je pense que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le rock au Québec. Là, il était dans autre chose, qui était un des avec Offenbach, qui était un des premiers groupes rock, mouvement rock au Québec. Puis c'est quelqu'un qui a eu une vie assez, assez rocambolesque aussi. Là. Je suis sûr que lui aussi a des bonnes histoires à raconter. Ouais, puis en fait, c'est une influence pour Fan un peu, la musique de autre chose. Puis on les avait contactés là, quelques semaines justement parce qu'on savait qu'il y avait une formation d'autre chose là, avec les gars, entre autres, de Voivod et de Grooveyard War qui ont fait quelques spectacles. V'là quand même pas si longtemps, v'là quelques années. Puis on les a contactés juste pour voir si ce serait peut-être possible éventuellement d'en refaire un, puis qu'on aurait bien aimé ça, pouvoir jouer avec eux. Puis effectivement, ben, quelques semaines après, on a eu la mauvaise nouvelle, comme quoi qu'il était décédé. Donc, fait que ouais, c'est quand même une influence, puis une idole un petit peu. Fait que...
Rest in peace.
Yep.
Rest in peace. Mon sel n'arrête pas de s'éteindre depuis tantôt. Voyons, je suis rendu où, là? Ah! Francis va me chialer après l'émission. Une personne qui a... Oh, c'est vrai, faut pas que je mette mon pied, sinon c'est Lou qui va me chialer après l'émission. Une personne qui écoute pas de musique ou qui y a absolument aucune culture musicale, un peu comme moi. Je prends des notes mentales. C'est quoi l'album ou l'EP ou une chanson que tu y fais écouter en premier?
Oh boy. Aucune culture musicale.
C'est une bonne question parce que c'est tellement subjectif la musique. Mm-hmm. C'est. Tu sais, moi, je parlais tantôt que j'écoutais un petit peu de métal, j'écoutais beaucoup de grunge. T'sais, si je vais plus loin que ça, ma chanteuse préférée, c'est Sarah McLachlan.
C'est
full quétaine, là. C'est full quétaine, mais cette fille-là, elle a une voix d'ange. Non, c'est mongol, là. Mais un album, choisir un album ou un artiste pour initier quelqu'un à la musique, là, c'est tough. C'est tough parce que, tu sais, il y a des gens qui écoutent de la musique, puis la majorité sont attirés plus par les paroles. Les paroles, les mélodies viennent les chercher. Il y en a plus qui, comme moi, ben vont focusser plus sur le drum, sur les instruments, BPM, un peu plus. Oui, j'écoute un peu l'ensemble, mais c'est sûr que moi, je vais dans un show, puis bien souvent, je fixe le drummer un peu. Oh boy, lui, il est bon, ou bien, oh fuck, il est pas là pantoute. T'sais, ça arrive. Là. Mais c'est dur à dire, un album.
C'est dur de pas être en mode jugement quand tu vois un show?
Quand t'es musicien, oui.
Ouais, c'est dur.
Oui, entre musiciens, je suis sûr que tout le monde se juge. Ça, je suis convaincu de ça. Tu spots tout le temps le gars dans le coin de la salle qui est bras croisés.
Mm-hmm.
Lui, il est en train de te juger, clairement. Ouais. Mais honnêtement, moi, j'ai passé par-dessus ça. Là,
j'ai l'impression que toutefois, quand tu pratiques un métier, c'est un peu ça aussi. Il faut t'apprendre à te détacher. Là.
Ben oui.
En tant que mot de barman au début.
Les barman jugent les autres barman. C'est exactement ce que
j'avais fait. Il faut que tu te détaches aussi. Tu fais ça pour faire leur job.
Tu te détaches, sinon tu n'enjoys pas.
C'est ça. On fait nos choses, puis on a du fun. Puis tu sais, faut pas casser la vibe des trois sur stage. Fait que le monde en dehors, on regarde la vibe, puis on continue.
Ah, qu'est-ce que
Mais pour revenir à nos moutons avec ton album, ça serait quasiment un album parfait, mais un album parfait, ça n'existe pas. Colin. Ben, je sais pas. À cause de mes influences, je suis quasiment obligé de te dire « Nevermind ». Je suis quasiment obligé de te dire ça parce que cet album-là, il va chercher autant dans le commercial que dans le plus rough un peu. C'est pour le mainstream people, mettons. Là, parce que
celui que j'aime le moins.
Oui, ben pour vrai, moi aussi, c'est pas mon préféré. Moi, c'est In Utero, mon préféré. Ah, oui. Tu disais qu'il y avait Bleach. Une version raw d'In Utero, ouais, probablement que je l'aimerais encore plus.
Je te trouverais ça, là. Il doit l'être sur YouTube, là, mais c'est facilement trouvable en torrent ou sur Internet.
Mais le son d'In Utero est pas mal plus proche de ce que j'entendais dans ma tête. Tu sais, puis c'était un peu drôle parce que quand j'ai écouté le deuxième EP, c'est tout de suite à ça que ça m'a fait penser. Le son raw d'In Utero, là. Avant
de savoir que c'était Albini qui l'avait tapé.
Pour vrai, je ne savais même pas au début. Pour vrai, peut-être qu'il me l'avait dit, mais je ne savais même pas. Je l'ai écouté et je n'ai pas fait le lien de suite. Là, mais là, quand je l'ai su, après, je fais un plus un, ça fait deux. Là. Mais le côté son, c'est sûr qu'In Utero, c'est dur à battre. Mais côté mainstream people, puis ça, c'est une affaire que Cobain il disait, c'est qu'il y a plein de monde qui riait de lui quand il était au secondaire, qui était genre les fraîchiers de l'école, qui à cette heure allait assez chaud. Ça, ça le faisait chier au bout. T'sais. C'est l'envers de la médaille quand tu deviens mainstream. Mm. Mais non, Nevermind, c'est sûr que c'est un classique. Là, mais si je t'avais dit Bleach, t'aurais pu me dire que t'étais un esti de maillet. C'est quand même un bon album. Mais pour les non-initiés, c'est bizarre un peu. Tu sais. Mais non, c'est ça. Je suis obligé d'y aller avec une valeur sur. Là. C'est quand même dans. Ça doit être dans le top 50 ou dans le top 100 des meilleurs albums. Tu sais, j'aurais pu dire un album des Beatles aussi. Les Beatles, c'est un classique aussi. J'écoute autant de Beatles que j'écoute de Nirvana. Ou, c'est vraiment dur à saisir quelque chose.
Toi, Alex?
Ben moi, je dirais l'album Melancholy and Infinite Sadness des Pumpkins parce que c'est tellement large. On dirait que c'est un côté presque éclectique là, dans le sens qu'autant il y a des chansons qui bûchent vraiment beaucoup. Autant il y a des chansons vraiment très mélodiques, fait que j'ai l'impression que ça donnerait comme un bon éventail quand même de genres un peu différents, là, d'émotions différentes qui ressortent de ça.
Traitor de Michael Jackson.
C'est bon, ouais. C'est bon. C'est
original. Ouais.
Trois styles complètement différents. J'adore. Non, moi ça serait un petit greatest hits de Miles Davis, une tonne de jazz. Là. Tu il n'y a pas de culture, tu cuisines avec, tu mets ça en arrière. Là. On s'en calisse. Bon, ben,
je pensais que tu allais dire Greatest Hits, un Big Shiny Tunes.
Quoi?
C'est pas, c'est quoi?
Ah, t'es trop jeune pour ça.
Ouais, le temps avance, le show commence dans très peu de temps.
Ah, continue deux, trois questions vite. Là. Il y en a des bonnes que t'avais là, de la semaine passée ou des autres semaines.
Que je ah ouais, tu veux que j'y aille que j'y aille dans le drôle?
Là? Ah ouais, c'est bon ça. Des bonnes petites questions à rafale, là, comme tu sais le faire. Là.
Rafale, vous êtes prêts? Là?
Yes.
Ah ouais, c'est le fun pour faire ça.
Attends, là, ça sera pas long.
Sors des questions à la semaine passée, l'auditeur aime ça pareil, puis les questions sont le fun.
Là, faut que vous répondiez vite. Là. Ben. Genre, je veux vous en passer 10 en 5 minutes. Là.
OK.
Il te reste une heure à vivre, tu fais quoi?
J'écoute de la musique.
Qu'est-ce que t'écoutes?
Mais pas probablement toutes les bandes que...
Ouais, c'est ça!
Toutes les bandes que j'ai dit tantôt.
Ouais, toutes les bandes de tantôt, hein?
Ouais.
Je joue de la musique, sûrement. Ouais.
Fait que tu pourrais les coups de jouer.
Ouais,
ouais, ouais, ben, ça, pourquoi pas?
C'est chiant comme question. Une heure à vivre. Je suis obligé de te dire que je vais le passer avec ma blonde et mes deux kids. Là. C'est...
Bonne réponse.
Bonne réponse.
Si je réponds pas ça, il me restera moins d'une heure à vivre.
T'es la dernière personne sur Terre, tu fais quoi?
On fait de la musique. Là. Tu manques d'imagination ici.
J'espère qu'il me reste une heure à vivre.
Ouais, c'est bon.
Écoute, je sais pas. Tout est possible, j'imagine, si on est la seule personne sur Terre.
Première affaire, y'a-tu?
Première affaire. Je vais au McDo, puis je me cuisine moi-même mon hamburger.
Tiens, je le paye pas, mon extra bacon!
Pour une fois qu'il manquera rien.
Ah ouais. Tu t'imagines, on va le faire tout nu, même. Ouais. Comme ouais, tu ouais, veux, ouais, avec ouais, le nombre exact. De pickles. Puis...
Exact.
Si t'étais obligé de perdre un sens, ça serait lequel? L'odorat, la vue, le toucher, l'ouïe?
Manque le goût.
Le goût, excuse-moi.
On est-tu pour... vraiment obligé?
Hein? Imagine, t'es obligé. Là.
Ah ouais.
Ah, l'odorat, je pense.
Ouais?
Ouais.
Le goût.
Le goût?
Ouais.
L'odorat, c'est le moins dommageable, je pense.
Mais moi, là, c'est le goût. Là. Je m'en calais un peu aussi.
Mais si tu sens plus rien, tu goûtes plus rien non plus, je pense.
Ouais, mais dans cette question, on sépare les deux.
Les deux sont séparés. Là,
ben sinon, il n'y a pas vraiment 500, il y en a 4.
Ouais. T'as un seul objet à ramener sur une île déserte avec toi, c'est quoi la seule affaire? T'sais, déserte, là, c'est une pile de sable, t'as rien d'autre. Là. Un seul objet.
C'est une photo de ta blonde.
Même pas.
Là, il va te rester une heure à vivre.
Effectivement. Ouais, photo de ma blonde. J'emmène mon téléphone, j'ai toutes les photos dedans.
Ah ouais,
jusqu'à t'as plus de batterie.
Je vais te laisser répondre.
Ben, je sais pas, une guite.
Moi, une petite guise acoustique. Là.
Ouais, ça ferait bien.
Ah, ben je pense que mon instrument aussi, une guite ou une bass, faudrait que je tranche entre les deux. Ma bass, tiens.
Une bass acoustique, comme ça, tu peux jammer avec lui, ça.
Ouais, ben oui.
C'est fait. Ben, c'était... Ah, réponse, téléphone. Moi, j'attendais ta réponse. Je suis comme... okay,
c'est pas parce que je t'accrois à mon téléphone. Vas-y. C'est juste parce que je vais avoir plein de choses à regarder en broyant ma vie parce que je vais être seul au monde.
C'est quoi votre talent caché le plus inutile?
Comme c'est pas la cuisine, apparemment.
Y a-t-il des reproches qui vont se donner?
Ouais, peut-être. Hein?
Moi, je suis capable de jongler.
Ben, c'est vrai que c'est un peu inutile.
C'est inutile. Ouais. Je suis un bon jongleur.
Un talent caché? Je sais pas aussi si... C'est une question un peu ambivalente. Là. Je dirais pas chanter, parce que je l'ai dit tantôt, ça marche pas. C'est une bonne question. Une bonne question. Un talent caché. À part faire fâcher ma blonde.
C'est...
Ben, c'est
un talent
caché. Ça peut être un talent caché.
Et je suis excellent là-dedans.
Imagine, la terre explose si ta blonde n'est pas fâchée. Si tu l'as fait fâcher. Voilà, tu viens de sauver le monde. Des extraterrestres, là, ils viennent de descendre sur Terre. C'est quoi la première affaire que tu leur dis? Ils viennent te parler à toi spécifiquement. T'es la première personne qui voit. Qu'est-ce que tu leur dis?
Bonjour, hi.
Ben, je pense que j'aurais des questions, là. Je vais commencer sur leur planète.
Tu veux-tu une bière? On va parler de ça.
Ouais, ça pourrait commencer bien. Veux-tu une bière? Ouais,
ouais, ben, ouais, c'est... ouais. C'est...
Bonne idée. T'as le tour avec les extraterrestres, ouais.
Ouais, pas pire. Est-ce qu'il m'en reste une?
Avec ta meilleure.
Ma meilleure?
Celle que tu préfères poser.
Ah! Quoi? Pardon?
Vas-y.
Si tu... Ah, je l'ai.
Vas-y.
Si vous pouviez vivre dans n'importe quel univers fictif, dans un livre, dans un film, dans un jeu vidéo, ça serait lequel?
Moi, c'est dans Star Wars.
C'est
bon, ça. Ouais, je serais un Jedi et tout.
Ouais, c'est cool.
Ouais, mais dépendamment quel Star Wars.
Ouais, c'est ça.
Ouais, les Jedi.
Ouais, après non, ou avant l'ordre 66.
Ouais. C'est... Faudrait y réfléchir. Ouais.
Ça serait, mettons, là, dans les années comme style Forrest Gump. Là.
Ah ouais?
Les années de Forrest Gump, l'ambiance Forrest Gump. Parce que...
Mais ça compte parce que Forrest Gump, c'est
la
fictif.
Bonne vieille guerre du Vietnam.
C'est ça. Dans ces années-là, là, tout était à faire côté musique. Là.
Ah, c'est vrai, c'est... même.
Oui, il y avait déjà des gros bands, là, mais il y avait beaucoup d'exploration à faire encore côté musique. C'était des belles années. Pour vrai, 70-80, là, s'il y avait une place au monde qui vive encore comme en 80, je pense que j'irais. C'est... Pas de téléphone, ça serait déjà pas pire.
Ouais, ça serait moins toxique.
C'est ça. Mais non.
Je prédis la matrice, mais ça change rien. Ça changerait rien parce qu'on vit déjà dedans.
Oh mon Dieu! Tonton!
Big Brother.
C'est bon ça, j'aime ça.
Fait qu'on va finir sur une matrice.
Ouais.
Ah, c'est bon ça.
On est dans la matrice, mesdames et messieurs. Trustez personne, c'est des ordinateurs tout autour de vous.
Ah bon, ben, je pense que c'est un rap, ça. C'est fini.
C'est un rap. Merci beaucoup.
Ouais, j'aimerais ça vous remercier.
Merci
beaucoup d'être prêté au jeu.
Merci.
J'ai hâte d'aller vous écouter en bas.
Ouais, bonjour. Puis j'ai hâte que vous repassiez. J'ai hâte que sur moi repasse aux Zenob aussi. Je pense que vous êtes déjà passé aux études à notre bar à Trois-Rivières.
On a déjà joué plusieurs fois aux Zenob.
Ouais,
on va probablement revenir en février pour faire le lancement officiel de notre EP qu'on a sorti.
Franchement, un appel.
L'invitation est lancée. On reparlera du projet si ça vous tente un peu plus
en détail
ici. Merci beaucoup. Bon
show.
Merci.
Prenez soin de vous autres.
Bye.